9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
La rentrée scolaire cette année est marquée par le manque d'enseignants. On a recours à des contractuels moins formés qu'un enseignant stagiaire. François Dubé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue. C'est vous qui aviez dirigé le rapport sur le collège de l'an 2000 qui avait été remis à l'époque au ministre Claude Allègre. Vous êtes l'auteur de nombreux livres qui traitent de la question de l'école. Les derniers sont « L'école peut-elle sauver la démocratie ?» que vous avez écrit avec Marie Durubelin et « Tous inégaux, tous singuliers ». Vos deux livres sont parus au Seuil. La France, dites-vous, est le pays qui croit le plus à l'école. Ce serait ça le problème?
Non, ce n'est pas le problème, mais disons que la France est un pays qui reste très très marqué par une histoire d'une école républicaine qui a construit la nation, la République, la démocratie, ce qui fait que chaque fois que nous avons un problème, au fond, on pense que l'école doit être la solution, ce qui est à la fois une bonne chose et quelquefois un embarras, parce que, évidemment, l'école ne peut pas faire tout ce qu'on lui demande.
C'est parce qu'on croit à l'école, qu'on a massifié l'école et qu'on a du mal à la réformer ?
Oui, enfin, d'abord, la massification, c'est pas une affaire française. Et je veux dire, tous les pays comparables ont massifié leur système scolaire, c'est-à-dire que le nombre de lycéens, le nombre d'étudiants a explosé à peu près partout. Ce qui peut caractériser la France, c'est que, étant extrêmement attaché à la grandeur de notre histoire scolaire, pour dire les choses comme ça, enfin, Jules Ferry, etc., on a, au fond, massifié l'école sans vouloir véritablement la transformer. On a pensé que l'école traditionnelle pouvait s'ouvrir à de nouveaux élèves sans se transformer. Alors, évidemment, on l'a transformée, mais très souvent, on n'a pas mesuré ce que ça signifiait, la massification, c'est-à-dire, par exemple, une transformation formidable du travail des enseignants. Je veux dire, le travail des enseignants est devenu beaucoup plus compliqué et difficile que du temps où l'école, au fond, triait les élèves dès leur entrée au collège ou au lycée. Ou par exemple, on a tout continué à croire que la production de diplômes allait correspondre à la production d'emplois équivalents, ce qui n'est pas évidemment le cas. Donc, la France est dans une situation qui n'est pas aussi singulière qu'on le croit, mais quand même où on a des réflexes un peu particuliers. J'ajoute évidemment que la crise du recrutement des enseignants, alors c'est pas du tout une affaire française, on trouve ça dans tous les pays, y compris d'ailleurs dans les pays où les enseignants sont très très bien payés, ce qui veut dire que c'est plus profond que simplement une histoire de salaire, c'est que le métier n'est plus le même, il n'a plus la même aura, le même prestige, et donc c'est un problème qui est un peu lourd, qui nous attend là, oui.
Mais on a l'impression aujourd'hui que tout le monde se sent victime de ce système. Les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, la société elle-même qui a l'impression que l'école ne remplit plus sa mission et qui a la nostalgie de l'école d'autrefois.
Ben, vous avez au fond deux grands réflexes face à cette école qu'on a bien vu dans la campagne électorale. Le réflexe que je dirais rapidement de droite, d'extrême droite, qui dit l'école d'avant était meilleure, revenons à l'école d'avant, ce qui est évidemment absurde. Qu'est-ce qu'on ferait de tous ces élèves, de tous ces étudiants? Ça n'a pas beaucoup de sens. Et le réflexe un peu traditionnel de gauche qui dit continuons à faire ce qu'on fait avec plus de moyens et ça devrait finir par marcher. Donc je crois qu'on est devant un moment où il faut réfléchir quand même sur notre système. Et d'autant plus que les performances des élèves sont pas très bonnes, les comparaisons internationales ne nous sont pas très favorables. Les élèves français en mathématiques et en sciences sont quand même particulièrement faibles par rapport à ceux des pays comparables. Donc voilà, c'est une crise générale, je dirais, des systèmes scolaires qui en France a une allure un peu particulière. Mais on peut se consoler en disant, par exemple, qu'en Grande-Bretagne, 40% des enseignants démissionnent au bout de 5 ans de pratique. C'est quand même beaucoup. Voilà. Mais je crois que, au fond, aujourd'hui, la difficulté de recruter les enseignants fait prendre conscience de l'ampleur du problème, de la gravité du problème. Ça me paraît un peu nouveau. Au fond, c'est un métier qui était très désiré, qui était un métier très positif. On voit que les jeunes ne veulent pas y aller, que ceux qui y vont, pas forcément le niveau qu'on espérait. Et c'est un peu comme la canicule de cet été. Je veux dire qu'on savait qu'il y avait du réchauffement climatique, et puis après 2 mois de chaleur, on pense que c'est là que c'est pas pour demain. Et je dirais que la crise du recrutement font que maintenant les problèmes scolaires sont là et pas pour demain.
Mais attendez, fait une pause, François Dubé, et on y revient tout de suite.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec François Dubé, l'auteur de « L'école peut-elle sauver la démocratie ?» de « Tous inégaux, tous singuliers ». On revient sur cette crise de l'école dont on nous parle à chaque rentrée et qui se matérialise cette année par le manque d'enseignants. Vous avez parlé de l'égalité des chances. C'est une obsession française, l'égalité des chances. C'est notre conception de la méritocratie républicaine. Le problème de la méritocratie, c'est malheur aux vaincus. Non.
Alors, il faut distinguer deux choses. Je veux dire que l'égalité des chances est un modèle de justice universel dans les sociétés démocratiques. On veut que chacun ait les mêmes chances d'accéder à toutes les positions sociales. Ce qui caractérise les écoles, c'est pas que il n'y a pas que l'école française, c'est que c'est très difficile à atteindre. Il n'y a pas beaucoup de pays, il n'y a aucun pays même. Qui réalise cet idéal d'effacer l'impact des conditions sociales sur les performances des élèves. Alors, ce qui caractérise la France, c'est qu'on y parvient particulièrement pas bien, d'une certaine manière, mais aussi sur le fait qu'on pense que l'égalité des chances, c'est l'égalité des chances d'accéder aux positions les plus élitistes. Ce qui fait que notre modèle scolaire est assez cruel de ce point de vue-là. Et au fond, en France, comme dans les autres pays, mais peut-être plus chez nous, on est en train de couper le monde entre les vainqueurs de la méritocratie et les vaincus de la méritocratie. Au fond, on s'aperçoit qu'en France, mais aussi aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs, que ça a un formidable impact politique. D'un côté, les vainqueurs de la méritocratie pensent ce qu'ils méritent, ce qu'ils ont, et ont confiance dans les autres, dans les institutions, dans le progrès, dans le savoir. Et les vaincus de la méritocratie, ils ont de moins en moins confiance en eux, de moins en moins confiance dans les institutions. Ils ont le sentiment d'avoir été humiliés. Et on le voit d'ailleurs, politiquement, ça a complètement changé le mode de constitution des électorats. Je veux dire qu'en 1980, pour prendre la dernière élection triomphale du Parti socialiste, c'est un vote de classe. Les ouvriers votent à gauche et les autres à droite. Aujourd'hui, les diplômés votent au centre pour les Verts et les autres votent plutôt pour les extrêmes et notamment pour l'extrême droite. Et c'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en Grande-Bretagne. Donc, les inégalités scolaires, ça n'a pas qu'un impact sur la justice sociale et les parcours des individus, ça a aussi un impact politique extrêmement fort et peut-être qui devient aujourd'hui un peu dangereux.
Mais François Dubé, l'influence de l'école décline. Son autorité culturelle est concurrencée par les médias, par la télévision, par Internet, par les réseaux sociaux.
Moi-même, j'ai vécu dans une société où vous aviez le choix. Si vous vouliez sortir de votre culture familiale, vous aviez le choix entre l'école ou l'école ou l'école. Bon, c'était simple. Dans les régions catholiques, c'était l'église ou l'école, mais c'était ça. Aujourd'hui, évidemment, n'importe quel adolescent a le choix entre l'école, ses écrans, son portable, son smartphone. Et donc, l'école n'a plus l'autorité culturelle qu'elle avait, c'est clair. Et elle ne la retrouvera pas de ce point de vue-là. Elle n'a plus le monopole. Bon, ça veut dire qu'il faut réfléchir sur la culture scolaire, sur les modes de transmission. Et un des effets, d'ailleurs, de cette perte d'autorité de la culture scolaire, c'est qu'au fond, la culture scolaire n'est perçue bien souvent par les élèves et par les familles que comme un support de sélection. Au fond, il faut bien travailler à l'école pour réussir et pour s'en tirer mieux que les autres. Donc, oui, il y a une véritable mutation, mais on pourrait dire qu'elle concerne la presse écrite, les partis politiques.
Oui, vous l'avez raconté dans Le déclin de l'institution,
voilà.
Un livre.
Voilà, aujourd'hui, on n'est plus dans une société où quelques institutions ont le monopole de la définition de la vérité, de la culture, de la religion, etc. Ça, c'est devenu à l'état gazeux, si vous voulez. Tout le monde se fait son opinion.
Quand on dit que le niveau baisse, c'est par rapport à celui d'autres pays. Hein, et la tentation, ce serait de s'inspirer de ces pays, que ce soit Singapour ou la Finlande.
Ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que au fond, on a augmenté le niveau de recrutement académique des enseignants. Autrefois, un professeur des écoles était recruté à niveau bac, la licence suffisait pour être dans le secondaire. On a monté le niveau de recrutement académique, et dans tous les pays du monde d'ailleurs, cet accroissement du niveau académique n'a pas accru l'efficacité professionnelle. Donc, je crois qu'aujourd'hui, enfin moi c'est une proposition que je fais depuis bien longtemps, c'est de dire, si l'enseignement est un métier, si c'est un métier difficile, il doit s'apprendre comme un métier. C'est-à-dire que on ne devient pas enseignant à bac plus 3, à bac plus 4, en se demandant ce qu'on pourrait faire, mais on choisit ce métier exactement de la même manière qu'on choisit le métier d'ingénieur, le métier de médecin, c'est-à-dire assez tôt après la sortie du lycée, parce qu'un métier s'apprend. Voilà. Mais si on considère que c'est plutôt un art qu'un métier, on aura de plus en plus de difficultés et de plus en plus de mal à recruter.
Dernière question, François Dubé, vous faites partie, vous n'êtes pas le seul, hein, de ceux qui encouragent à plus d'autonomie l'éducation nationale. Pourquoi ?
Je crois qu'il y a un paradoxe en France qui est le suivant, c'est qu'on pense que la capacité éducative tient à l'homogénéité des équipes éducatives des établissements. C'est-à-dire que les enseignants se sont choisis, travaillent ensemble, pratiquent les mêmes méthodes, se concertent, etc. etc. Ça, c'est l'idéal qui est répété depuis 30 ans. Mais le mode d'affectation des enseignants dans les établissements, lui, est un mode bureaucratique. Et donc, il y a une sorte de paradoxe qui se crée entre la nécessité d'avoir des équipes homogènes et un mode d'affectation des enseignants qui fait que parfois, ça marche très bien. Beaucoup d'établissements marchent très bien. Parfois, c'est un peu compliqué, notamment dans les établissements les plus difficiles, où les enseignants qui sont extrêmement investis, en même temps, restent quelques années parce que c'est difficile et qu'ils veulent partir. Donc, il faudra bien trouver une solution. Alors, je signale quand même, parce que quand on dit autonomie des établissements, tout le monde en France entend libéralisme sauvage, concurrence généralisée. Je voudrais rappeler que dans tous les pays du monde, à ma connaissance, ce sont les établissements qui recrutent les enseignants, qui ont une convention collective, etc. C'est pas un ordinateur central qui affecte les enseignants finlandais, qui ont toutes les vertus, suédois, allemands, etc. Alors, là aussi, nous avons des traditions, mais quand même, comment ne pas se rendre compte que nous avons le pays le plus centralisé, le plus homogène, le plus bureaucratique? Et qu'en même temps, nous avons les inégalités scolaires parmi les plus fortes. Donc il y a bien quelque chose qu'il faudrait arriver à régler, ce qui suppose des capacités politiques. Bon, ça c'est une autre affaire, mais le métier de ministre de l'Éducation nationale n'est pas un métier parfaitement paisible et facile, hein, parce que à la fois il y a une sorte d'accord sur les problèmes et de très très grandes difficultés de transformer ce système, d'autant plus aujourd'hui qu'il n'y a pas beaucoup de moyens supplémentaires, qu'on ne peut pas, compenser des réformes un peu pénibles par des ressources, des salaires, etc. Donc c'est quand même une affaire compliquée, mais je crois qu'il n'y a pas de désaccord sur la nature du problème.
Merci François Dubé, je renvoie à votre dernier livre, hein, « Tous inégaux, tous singuliers ». C'est paru aux éditions du Seuil. On fait une pause, on se retrouve dans un instant avec Cécile Chabot et Rachilde, homme de lettres.
Europe 1,
c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.